Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Vous le savez, IDFM Radio ne diffuse plus pour l'instant d'émission, mais un flux musical en attendant. Retrouvez l'émission sur notre site Big Bang Station le mercredi à 21h et sur Facebook, toujours, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Vous retrouverez la liste sur notre site internet Big Bang Station avec tous les podcasts depuis 2017. Voici quelques radios qui nous rediffusent le samedi à 10h, Vinyl Radio, le vendredi à 20h, Onde Bleue, le samedi à 9h, RLM, le vendredi à 11h, AOM Radio, Radio Saint-Dié le samedi à 20h, Precious Radio le dimanche à 16h, Les Muses de Paris le dimanche à 20h, Fréquence Magique le lundi à 19h, Radio Ems le mardi à 21h, Radio Grand Lyon le mardi à 16h, le samedi à 10h et le dimanche à midi, 86 FM Web Radio le samedi à 20h, Radio Marseillette le mercredi à 20h, Radio Trad Grand Est le vendredi à 11h, Give Me Radio le jeudi et bien d'autres radios. Peut-être Ploquin FM dans
Non, ça n'existe pas encore. L'imagination de dire. Je pensais pas. C'est l'imagination de dire. Non. Faut être humble et modeste.
Big Bang Station, vous le savez, c'est depuis 26 saisons un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs musique, télé, BD, high-tech, histoire collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de VIH. Petit Manu reviendra sur la journée mondiale de lutte contre le sida.
Bonjour Didier, bonjour à vous tous. Alors là, c'est un problème, évidemment, je vous dis ce qu'il faut savoir et je vous en parlerai. Il faudra écouter avec la plus grande concentration. C'est quand même un thème sérieux et je vous dirai des bonnes choses que vous devez savoir. Peut-être que vous doutez, et en tout cas, je vous en parlerai. Mon cher Didier, bonjour à tous.
L'association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle est l'une des premières associations en France qui a été créée en 1985. Nous aurons sa directrice Valérie Bourdin au téléphone dans un instant. Nous parlerons lutte côté mode avec Chimelle.
Et oui, en effet, le domaine de la mode aussi s'engage auprès de sujets sociétaux de grande importance, tels que le sida, dans le but de sensibiliser un plus large auditoire. C'est ce dont je vous parlerai un peu plus dans ma chronique, on se dit alors à tout à l'heure.
William nous parlera prévention. Et test ?
Effectivement Didier, et salut tout le monde. Pour la lutte contre le sida, je vais vous présenter ma sélection de solutions 2.0 pour dépister le VIH.
Et pour notre page culture, Kevin nous fera redécouvrir ces chanteuses et chanteurs qui luttent contre le sida en musique.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien oui, hein, de nombreux artistes se sont sensibilisés contre le sida qui est un fléau, une maladie dont souffre encore beaucoup de personnes et nous allons les écouter tout à l'heure.
Wins Dollar a choisi de nous présenter certains artistes qui luttent contre la maladie cette année. Stani nous fera découvrir ou redécouvrir ces séries qui sensibilisent au VIH. Enfin, Eric nous démontrera que le 9e art évoque habilement le sida.
Oui, salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois différentes illustrations de la maladie du sida en bande dessinée.
Et l'émission est réalisée par qui ?
Didier ! Qui a créé l'émission ?
Didier ! Est-ce que je la réalise bien ?
Oh, très bien,
Eric ! Super bien, franchement.
Oh, pardon, j'ai pas mis le bouton enregistré. Non, je rigole.
Très dur. Oh là, on t'inquiète pas. Oh là. Comme une lettre envoyée à la poste.
Ne fais pas douter sur tes capacités, là. Sur ton professionnalisme.
Quand même au bout de 10 minutes.
Ah, heureusement, parce que, alors là, imagine, c'est... C'est évident dans ces cas-là.
39 millions de personnes vivent avec le VIH, hein, ce sont des chiffres de fin 2022, c'est évidemment dans le monde. Selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de découvertes de séropositivité est estimé à 5013 personnes en 2022. C'était 4753 en 2020, on peut dire que ce sont des chiffres relativement stables, mais évidemment pas encore assez bas. C'est pourquoi tous les ans, la journée mondiale de lutte contre le sida a lieu le 1er décembre, comme va nous l'expliquer Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker. Justine Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Alors, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, a choisi la date, comme tu as très bien dit, Didier, le 1er décembre, c'est en 1988, la journée mondiale contre du sida est l'occasion de la mobilisation contre le VIH, sida, où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Cette journée est celle de la mémoire et du souvenir à l'honneur des personnes décédées de la maladie. Le slogan de cette édition 2023, confié à le leadership, c'est qu'on commande, c'est le leadership, c'est le fait qu'on commande, on parle avec affirmation. La stratégie mondiale de l'heure, c'est un nom. ONU-SIDA 2026 a pour objectif de réduire les inégalités qui sont à l'origine de l'épidémie SIDA et ou à donner la priorité aux personnes qui n'ont pas encore accès aux services vitaux contre le VIH. La stratégie énorme des actions de propriétaires et pour chaque pays et chaque communauté soit sur la bonne voie afin de mettre fin au sida en tant que menace de la santé publique. Ici, on espère 2030. Alors voici, c'est un numéro, si vous voulez vous poser des questions, c'est 0 800 844 800. Je le redis encore une fois, si dans le monde, vous posez des questions de A à Z, vous êtes dans l'intégration, c'est 0 800 840 800. On espère qu'on trouvera une solution, puis surtout un vaccin à soigner un jour. On l'espère, mon cher Didier. Et c'est vrai que comme t'as mis
à dire... On posera la question à notre invité. Merci, petit Manu. En France, AIDS a été la première association de lutte contre le sida en 1984, suivie de l'association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle en 1985, dont nous avons sa directrice Valérie Bourdin au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez dans des écoles pour des programmes de prévention et d'éducation à la sexualité ?
Oui, tout à fait. Ça fait plus de 25 ans, même presque 30 ans, on peut dire, qu'on intervient dans les écoles, les établissements scolaires, mais pas que. On intervient auprès des jeunes, entre autres. On a plusieurs programmes de prévention. Donc les jeunes, on les rencontre sur leur lieu de vie, donc dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi dans les centres d'hébergement, les maisons à caractère éducatif, les foyers, etc., tous les lieux qui accueillent des jeunes. Et nous avons effectivement un programme régional de prévention et d'éducation à la sexualité avec ces jeunes.
Vous avez remarqué un relâchement des comportements préventifs ces dernières années ?
Tout à fait, c'est vrai que il y a une banalisation de l'épidémie. Dans un sens, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où on peut vivre aujourd'hui, en tout cas en France, avec le VIH, dans la mesure où on a un traitement adapté. Pour autant, les effets les phases du manque de communication sur cette épidémie, parce qu'il n'y a plus du tout de campagne nationale d'information, fait que la maladie, le virus, ne sont plus très présents dans les mentalités et dans les mesures de protection que l'on peut adopter. Et entre autres chez les jeunes. Donc on se rend compte effectivement depuis quelques années d'un manque cruel d'informations chez les jeunes. Et cette pathologie, finalement, ce virus qu'on ne craint plus puisqu'il y a un traitement qui permet de vivre normalement. Néanmoins, il y a toujours en France aujourd'hui environ 6 à 7 000 contaminations, notamment chez des jeunes aussi. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'informations à faire sur cette épidémie.
Oui, justement, concernant l'éducation, on confond souvent SIDA et VIH, encore.
Oui, tout à fait. Le VIH, c'est le virus, et le SIDA, c'est le stade maladie, en fait. C'est-à-dire que sans traitement, de quelques années, on peut développer des maladies qu'on appelle opportunistes, qui sont des cancers, des zonas, enfin un certain nombre de pathologies qui sont inhérentes au fait que le virus, donc le VIH, s'attaque à notre système immunitaire qui s'affaiblit et qui ne se protège plus du coup contre d'autres maladies. Donc effectivement, ne pas confondre le virus et le stade maladie qui s'appelle le SIDA.
Intervenez-vous en entreprise ?
Non, nous n'intervenons pas en entreprise. En fait, on a trois programmes de prévention, donc auprès des jeunes, hein, dans leur lieu de vie, auprès des personnes migrantes.
Oui.
Donc, ce sont aussi des actions d'aller vers, hein, sur les lieux qu'ils fréquentent, les centres d'hébergement, les PRADA, c'est-à-dire les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CADA, les associations communautaires aussi, et puis un programme de prévention au milieu carcéral.
Et vous collaborez avec un théâtre pour la prévention ?
Alors oui, entre autres, c'est-à-dire qu'à l'ALS, on aime bien créer nos outils d'intervention. Donc on a passé effectivement un partenariat avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Monsieur Cheval et Associés, avec qui nous avons créé trois pièces de théâtre qu'ils jouent devant un public de jeunes, et puis derrière nous animons un débat. Mais nous avons également aussi un parcours ludique sur la sexualité qui s'appelle Sexpo. Donc on s'installe dans un lieu, établissement scolaire ou autre lieu fréquenté par des jeunes. On s'installe pendant plusieurs jours, et puis pendant deux heures et demie, les jeunes déambulent dans ce parcours, et nos chargés de mission sont là pour animer les différents outils ludiques de cet espace. Nous avons aussi une web-série disponible sur nos réseaux sociaux, donc
d'accord,
avec quatre épisodes qui abordent un certain nombre de thématiques. Nous avons de la communication digitale, donc un compte Instagram, un compte TikTok, une chaîne YouTube. Voilà, c'est-à-dire qu'on aime bien diversifier les voies d'accès au public, diversifier les outils avec lesquels nous allons pouvoir sensibiliser les jeunes sur un certain nombre de thématiques, puisque aujourd'hui, le VIH s'inscrit dans des thématiques un peu plus vastes, la santé sexuelle et l'éducation à la sexualité, où beaucoup d'autres thématiques vont être abordées en amont de la maladie, les questions autour du consentement, les questions autour de l'orientation sociale, du genre, de façon à pouvoir aborder les différents champs, les différentes questions qui se posent autour de la sexualité humaine. La sexualité, ce n'est pas qu'un acte, il y a aussi tout un tas de questions qui se posent d'un ordre soit physiologique, physique ou relationnel ou sociétal.
Et l'ALS accompagne les jeunes dans la création de supports, hein, vidéo, live, Instagram, interview, débat.
Tout à fait, effectivement. Donc, on a un programme qui s'appelle Les Chroniques. Et c'est un programme qui accompagne des petits groupes de jeunes dans la création de supports. Donc, ces supports sont ensuite mis sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Donc, on est sur des formats vidéo, micro-entretoirs, des posts aussi, des interviews. Et l'idée, c'est d'accompagner les jeunes sur plusieurs séances de façon à ce qu'ils créent des messages sur des thèmes qu'ils vont choisir, pour ensuite sensibiliser d'autres jeunes. La sensibilisation par les pairs, c'est une modalité opératoire qu'on aime bien utiliser sur nos différents programmes de prévention.
Il y a toujours un manque de connaissances et d'éducation sur le VIH. Pourquoi ?
Depuis de nombreuses années maintenant, il n'y a plus du tout de campagne sur le VIH. Et ce sont des associations comme l'ALS qui interviennent sur le VIH, entre autres, auprès de différents publics. Et le manque de bruit de fond fait qu'il y a une banalisation de la maladie, de la contamination. Et effectivement, on a toujours, comme je le disais, de plusieurs milliers de contaminations encore aujourd'hui en France. Donc c'est une bonne chose qu'on communique, hein, bien évidemment, sur le fait que les traitements aujourd'hui permettent de vivre normalement avec une charge virale indétectable qui fait que les personnes séropositives sous traitement ne transmettent plus le VIH. Pour autant, un bruit de fond permanent tout au long de l'année, ce serait encore utile et ce qui éviterait peut-être encore ces milliers de contaminations chaque année.
Comment se faire dépister facilement ?
Bon, c'est très facile de se faire dépister aujourd'hui. Il y a plein de lieux qu'on appelle les Cégides, hein, où on peut se faire dépister sans rendez-vous, de façon anonyme et gratuitement. Il y en a dans de nombreux hôpitaux, enfin dans chaque département, il y a des Cégides, hein, on trouve ça sur Internet, le Cégide le plus près de chez soi, de façon très facile. Il y a pas mal d'associations qui font aussi du dépistage. Alors, c'est une forme de dépistage qu'on appelle le TROD, test rapide d'orientation diagnostique. Puisque quand ces dépistages sont faits par des professionnels non médicaux, nous n'avons pas le droit de délivrer diagnostic. Hein. Par contre, on peut, avec ces TROD, révéler la présence du virus dans le corps. Il y aura une confirmation avec un test classique par une prise de sang par un personnel médical qui sera réalisé. Mais néanmoins, ces TROD qu'on peut faire très facilement dans le cadre d'une consultation en dehors de questions, de problèmes de santé sexuelle. Nous, on fait ça dans les différents lieux où on rencontre les publics. C'est très facile. C'est une petite piqûre sur le doigt. On récolte une goutte de sang et puis ensuite, on met la goutte de sang dans un réactif et en quelques minutes, on a la réponse. Et donc, on fait ces TROD aussi bien pour le VIH que pour les hépatites C et B d'ailleurs. Et ça permet d'avoir une orientation diagnostique assez rapide et de pouvoir réaliser ces tests dans différents lieux. Tant qu'on a une salle qui permet la confidentialité, on peut faire ça dans de nombreux endroits.
Et quelles avancées médicales ces dernières années ou à l'avenir ?
Bon, ça, c'est toujours un petit peu difficile à dire. Ces derniers temps-là, on évoque des tests, enfin des essais qui seraient assez concluants sur un vaccin. Voilà, donc c'est en cours, mais c'est vrai qu'on est toujours très prudent à s'extasier trop rapidement sur ces avancées. Il y en a eu quelques-unes quand même ces dernières années et puis qui finalement se sont révélées pas toujours très fructueuses.
On a entendu parler de guérison.
On a entendu parler de guérison. Alors déjà, effectivement, ce qui il faut savoir, enfin je répète comme je le disais juste avant, c'est qu'une personne séropositive qui suit son traitement correctement, qui a un traitement adapté, n'a plus de charge virale détectable quand on fait des analyses, donc elle ne transmet plus le virus. Hein. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle, donc la personne n'est pas pour autant guérie, néanmoins elle ne transmet plus le virus, et c'est vrai que la guérison, bon, il y a quelques pistes là en ce moment au niveau de la recherche, mais bon, on va quand même attendre d'avoir des résultats un petit peu plus avancés avant de crier victoire. Il y a encore beaucoup à faire néanmoins dans les années qui vont venir.
Merci Valérie Bourdin, directrice de l'association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle.
Je vous en prie, merci à vous.
La mode, comme chaque 1er décembre, organise de nombreux événements pour la lutte contre le sida. Il y a aussi le dîner de la mode qui avait permis de collecter 750 000 euros. Depuis 2003, date de sa création, le dîner de la mode a permis de collecter plus de 11 millions d'euros. Chimel va nous en parler en détail.
La lutte contre le VIH touche tout aussi bien le monde de la mode qui s'engage alors à son tour et ce depuis quelques années maintenant. Et l'un des événements phares qui, depuis sa création en 2003, ne cesse de contribuer à cette lutte, c'est le dîner de la mode. Alors je suppose que vous le connaissez déjà. C'est organisé par SIDAction en partenariat avec la Fédération de la Haute Culture et de la Mode. Il y a eu lieu cette année, le 6 juillet dernier, en clôture à la Fashion Week parisienne. Il réunit chaque année des personnalités du monde de la mode, du cinéma et des médias. Et cette année, cet événement incontournable s'est avéré efficace puisqu'il a permis de récolter 750 000 euros pour la lutte contre le VIH. Je vais aussi vous donner le montant récolté en 2020 et en 2022. En 2020, on était sur 780 000 euros et en 2022, 726 000 euros, qui est vraiment énorme. Et cette collecte de fonds est toujours nécessaire, hein, bien sûr, pour poursuivre le combat contre le virus du sida. Elle permettra de financer, comme chaque année, donc des programmes de recherche pour trouver un vaccin, des associations d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France comme à l'international. Elle permet aussi d'encourager le dépistage et lutter contre les discriminations qui font le lit de l'épidémie. Le milieu de la mode est donc très mobilisé pour la lutte contre le sida, comme vous avez pu le voir avec ce dîner de la mode. Et on a aussi en 2008 de nombreux artistes qui se sont associés au géant H&M afin de lancer une collection. La collection, c'est Fashion Against Sida. Alors, est-ce que petit Manu, tu as la traduction en français?
Alors là, je t'écoute et encore une fois, ma chère Chimène, moi je découvre ce que tu découvres, j'apprends. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Là, je découvre, donc je ne peux pas traduire, sinon je dirais n'importe quoi. Et je pense qu'on t'écoute avec la plus grande attention. on est tout cœur avec toi, Chim.
Alors du coup, je donne la traduction.
Je préfère parce que je préfère pas dire quelque chose que je connais pas.
D'accord.
Pas me ridiculiser. Ça s'appelle.
Alors, Passion Against SIDA. Bah,
c'est la passion.
C'est en gros la fashion contre le SIDA.
Exactement.
C'est un peu le slogan de cette nouvelle collection. Alors, pour tout bonnement sensibiliser les jeunes à la maladie. Et oui, n'oublions pas qu'il faut d'abord sensibiliser
tout à
dès
fait,
le plus jeune
à
âge.
Déjà.
Et cette collection donc permet ça, de sensibiliser donc les jeunes à la maladie de cette ligne de vêtements. Et ce qui est bien, c'est que 25% des bénéfices donc ont été reversés à la lutte contre le VIH. Le monde de la mode insiste donc sur la nécessité de continuer à soutenir la lutte contre le VIH, car n'oublions pas que malgré les indéniables batailles remportées par les acteurs de cette lutte, ces dernières décennies, en matière de prévention, de dépistage et d'accès au traitement, l'épidémie est encore loin d'être éradiquée en France ou comme dans le reste du monde. Alors je finirai sur ces mots pour vous dire dépistez-vous et protégez-vous.
Important, c'est important.
Très important.
Qui a fait un test ici? Personne?
Ah si, moi j'avais déjà fait. Si, moi aussi j'ai déjà fait.
Tu as fait un test du VIH?
Ah oui, j'ai été à l'hôpital.
Une fois ou plusieurs fois?
Moi j'ai dû le faire au moins 4 fois je pense.
Ah ouais, quand même.
J'ai fait.
Je sais que la première fois, je sais plus, je faisais une prise de sang. Ouais. Mais vous l'avez jamais fait, je fais? Bah non, parce que je savais qu'il n'y avait aucun risque.
Bah oui.
Je me suis presque fait engueuler. Donc
ah, carrément
fait le, puisque bah ouais, vous prenez du sang. Mmh. Et puis la deuxième fois, pareil. Et puis une fois, j'en ai fait un en plein milieu, même si j'avais aucun doute. Mmh.
Oui, t'étais tranquille.
Moi, je pense qu'une fois que t'as fait les deux premières, t'étais lancé à dire
oui,
pourquoi
pas. Oui, oui. Non, non.
Tu le fais régulièrement, toi?
Non, non, j'ai fait 2-3 fois. Et on m'a même dit que j'avais une veine sensible, quoi. Enfin, un bras, fallait que je le fasse aussi, un autre bras. Oh là là, non, non, j'avais un. Oh là. Non, je. Ah, puis c'est. Oh là là, c'est. Non, non, je l'ai fait de temps en temps. Oh, oui.
Bon, il n'y a que Eric et Chimel qui ne l'ont jamais fait.
Ouais,
bon. D'accord. Et en 2017, hein, 25 000 personnes seraient séropositives sans le savoir.
Oui, des fois sans le savoir.
Il y a des gens qui ne le savent pas. En 2021, environ 5,7 millions de tests sérologiques du VIH ont été réalisés en laboratoire, contre 5,3 millions en 2020. On peut se procurer en pharmacie des autotests, sinon des outils high-tech existent pour le dépistage du VIH. William nous a fait sa sélection. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli Objet Connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours?
On commence d'abord avec une machine nommée POC pour Point of Care. Ressemblant à une petite imprimante, il est équipé d'une cartouche sur laquelle on dépose une goutte de sang pour effectuer le test VIH. Au bout de 56 minutes, le résultat est prêt et il est imprimé automatiquement. Sans cela, il a fallu attendre jusqu'à 4 mois du fait que les laboratoires étaient submergés. Dès 2016, ces machines sont notamment utilisées au Mozambique pour le dépistage chez les nourrissons. En effet, dans l'ancienne colonie portugaise, seulement la moitié des enfants exposés au VIH ont fait l'objet d'un test de dépistage selon l'ONU-SIDA. Grâce aux machines POC installées dans des centres de santé, les enfants testés positifs sont immédiatement sous traitement et le résultat obtenu pour un test VIH est plus fiable, contrairement à un simple test rapide. À en croire une étude du ministère de la Santé, le taux de mortalité a été réduit de 43% à 15% en 2 ans avec ces dispositifs. Au fil des années, ils ont été déployés dans plein d'autres pays d'Afrique grâce au financement de l'agence UNITAID, l'initiative Clinton pour l'accès à la santé et l'UNICEF. On enchaîne avec un module pour smartphone. Conçu par Samuel Sia, professeur d'ingénierie biomédicale à l'Université Columbia de New York, il effectue le dépistage du sida en 15 minutes. Pour l'utiliser, il suffit de le brancher sur son téléphone via sa prise jack qu'on utilise de base pour ses écouteurs. D'abord, on injecte notre goutte de sang dans un microfluide, puis on insère ce dernier dans le module. Un bouton est présent pour lancer le résultat et une application dédiée se charge de le traiter. Hormis sa faible consommation énergétique et sa matière très solide, il ne coûte que 30 euros contre environ 18 000 euros pour l'équipement équivalent en laboratoire. On peut aussi le brancher sur son ordinateur. Afin de mesurer son efficacité, des professionnels de santé du Rwanda ont pu le tester dans le cadre d'un programme de prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant. En faisant l'analyse du sang de 96 femmes, les essais ont été concluants. Selon son concepteur, le module pour smartphone peut changer la manière dont les services de santé sont prodigués dans le monde. De plus, l'accessoire sert aussi pour la maladie de la syphilis. On termine la sélection avec le dépistage via une clé USB. Développé par des chercheurs du Imperial College de Londres et l'entreprise de biotechnologie DNA Electronics, il effectue le dépistage en 30 minutes. Dès que vous la branchez sur votre ordinateur, l'analyse se lance systématiquement. L'outil vous donne des informations détaillées avec le taux de VIH dans votre sang. Selon les estimations des chercheurs ayant conçu l'objet, les résultats donnés sont fiables à 95%. Grâce à cette clé USB, plus besoin de parcourir l'autre bout de la région pour se faire tester, surtout quand on est en province. En conclusion, ces innovations high-tech permettent un dépistage du VIH plus rapide, peu coûteux et plus accessible. C'est tout pour moi, ensemble contre le sida, et je rends le micro.
Merci William. Et avant d'ouvrir notre page de culture musicale avec Kevin, artistique avec...
Non mais je t'écoutais avec... Bah Chimène. Bah oui Chimène là, pas...
Ah oh, non, c'est Chimène et puis c'est y a, Windsor.
Et des jardins tout à fait, excuse-moi, on l'oubliait, oh là là.
Télévisuel avec...
Avec... T'es misé, Stani? Comment elle va, Stani? Oh.
Et littéraire avec?
Eric! Oh là là, trésor! Oh là là! Ça, c'est faire un lancement en duo, quoi!
Et nous ouvrons notre page culture musicale, artistique et télévisuelle et littéraire. En France, l'une des premières célébrités à avoir lancé un cri d'alerte contre le sida fut. La première qui a lancé un cri d'alerte en France.
Ah, bah, c'est Lynne Renaud!
Exactement! Cela fait 40 ans qu'elle se mobilise contre cette maladie qui continue à faire de nombreuses victimes en France. C'est aussi elle qui est à l'origine du SIDAction qu'elle a lancé en 1994 avec l'homme d'affaires...
Je pense plutôt le chanteur Pascal Obispo.
Non, enfin... c'est pas Pascal.
Pascal Obispo non plus. Non, je sais pas de qui tu
l'homme d'affaires.
L'homme d'affaires.
Avec qui elle a lancé le SIDAction.
Alors là, vous pensez à qui, les amis?
Il s'appelle Pierre...
Pierre Berger, tout à fait, quoi.
La lutte contre le VIH fut l'objet de nombreuses chansons hein, que nous allons réécouter grâce au quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu, j'ai envie de me planter sur un truc.
Mais sautons.
Et oui, hein, le sida a sensibilisé de nombreux artistes qui ont fait des chansons contre ce fléau, cette maladie qui continue de toucher énormément de monde. C'est le cas notamment d'un ensemble, un collectif de chanteurs qui a fait une chanson. Allez-vous la reconnaître ?
Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu des temps de combat. Et a tellement tendu son cœur. Là où d'autres ont baissé les bras, elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent des...
Tu m'annules.
Oui, je vois, tous contre le sida et je crois que c'était pas passé au Obispo, il me semble bien.
Oui, tout à fait, c'est lui
comme
qui...
Comme quoi, et, bon, je savais pas que t'allais en parler, mais c'est des connaissances, effectivement.
Alors, cette chanson s'intitule « Sa raison d'être »,
elle
date de 1998, une chanson écrite par Pascal Obispo avec un certain Lionel comment...
Lionel Florence, oui. Et je crois Lynne Renaud, et je crois qu'ils étaient au téléphone, ils parlaient au téléphone,
oui,
si j'ai bonne mémoire. Ah bah voilà, non, il a une très bonne idée, une très bonne initiative.
Alors, cette chanson s'est écoulée à 700 000 exemplaires et elle a rapporté 45 millions, non pas d'euros, mais de francs, car c'était encore en francs à l'époque. Alors, il y a de nombreux artistes qui ont participé hein, à ce clip où, comme tu l'as dit, Petit Manu, ils étaient tous au téléphone. Il y a notamment Johnny Hallyday, Florent Pagny, Ophélie Winter, Julien Clerc, Marc Lavoine et tant d'autres.
Patrick Bruel aussi.
Et dans une interview, Pascal Obispo disait que c'est, selon lui, sa plus belle chanson car en fait elle a sauvé des vies.
Bah ouais, c'est une prise de conscience aussi et c'est, je pense que c'était bien le symbole par le téléphone comme ça, pour aller les trouver. Je pense, qu'est-ce que t'en penses, Didier ?
C'était encore les premiers portables.
Ouais, bah non, mais à l'époque aussi.
Bah,
D'ailleurs, petit Manu, il a toujours le premier. Il n'a toujours pas changé de portable.
J'ai avancé. Mais le problème, c'est.
T'as toujours ton iPhone moins 2.
Non.
Faut que tu tournes avec une manivelle pour qu'il se recharge.
Faut tenir au courant, mais des fois, c'est en service par jour pour changer. Et quand ça en service, on doit changer. Voilà, tous les problèmes qu'on a. Mais enfin, qui ça n'arrive pas.
Je vous propose qu'on écoute le refrain.
Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu des temps de combat et a tellement tendu son cœur là où d'autres ont baissé les bras. Elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent dérisoires. On fait les choses parce qu'elles s'imposent sans se demander pourquoi.
Peut-être
couche dans la mer. C'est peut-être,
oui, peut-être,
une goutte dans les airs.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
On passe maintenant à une autre chanson caritative. De quoi il s'agit? Alors en fait, le titre, il y a bisous et amour en anglais.
On avait peur de tout
avant même qu'on se touche.
Kiss, love.
Bah tout simplement kiss and love.
Kiss and love, ouais, ouais. C'est vrai.
Alors c'est une chanson qui est issue d'un un projet, tout est dans le titre, un projet nommé Sidaction, sous la direction de Pascal Obispo. Cette chanson date d'ailleurs de 2014, c'était à l'occasion du 20e anniversaire de l'opération Sidaction qui a démarré en 1994. Il y avait même eu une émission qui était diffusée à l'époque sur toutes les chaînes avec de nombreux animateurs. C'est en 1994.
Et même à l'époque, je crois, je me rappelle très bien, Christophe Deschavin, il disait un préservatif à 1 euro. Il avait lancé la mode aussi.
C'est de par là qu'est né son slogan, on sortait couvert.
Exactement. Oh là là. Non, mais c'était vraiment une très bonne initiative. Il y a eu pris les risques, ou je ne sais pas si ça tient compte, mais Christophe Deschavin a osé le dire. Et très bonne initiative. On peut le reconnaître.
Alors je le disais, ce projet il est né sous la direction de Pascal Obispo qui pour cela s'est associé avec quelqu'un qu'il connaît bien, hein, Lionel Florence, déjà à l'origine du titre sa raison d'être, qui a effectivement beaucoup travaillé avec Pascal Obispo. Et ce titre Kiss and Love est issu d'un projet, d'un album qui était sorti la même année où on retrouve des chanteurs comme Alain Souchon, Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel et même Françoise Hardy. Je vous propose d'écouter le refrain de Kiss and Love. On termine avec un autre collectif, une chanson tout aussi connue que sa raison d'être. De quoi il s'agit ?
Have you ever dreamed of playing for the biggest team there is on earth? Have you ever played a dream and you love?
Alors dans ce titre, il y a Love et il y a Unité, mais en anglais.
Love Unit.
Love
Love United.
United.
Chanson écrite par Pascal Obispo et Youssou N'Dour, où ils ont réuni.
Encore
bah oui,
partout.
Obispo, ouais. Ah non, mais il s'investit beaucoup, il n'y a pas frotté. Oh
bah quand Emmanuel Plequin cité.
En revanche, avec Lionel Fort, il a aussi fait beaucoup de chansons pour son ami aussi, Florent Pagny, qui lui a écrit beaucoup de chansons aussi. C'est comme une espèce de clan, ils sont amis, il faut le reconnaître et le préciser, je dirais.
Alors, comme vous pouvez l'entendre, ce ne sont pas que des chanteurs, que contrairement à sa raison d'être, mais plutôt des footballeurs. Des footballeurs comme notamment Zinedine Zidane, Sylvain Wiltord, Thierry Henry, Roberto Carlos, Claude Makélélé, qui se sont tous, et même Bekchente Lizarazu, qui se sont tous réunis pour enregistrer ce titre, qui est devenu un hymne contre le sida. Je vous propose d'écouter le refrain. Et même petit Manu, tu peux chanter aussi.
Oh, hein. Ah non, pas du tout, je t'écoute.
Allez, Manu, chante.
Ah, non, pas du tout. Je t'écoutais avec grande attention. Je pensais à notre chanteur après. C'est pour ça que j'étais content. Mais je t'écoutais à ce que tu disais.
We for love united, come together undivided. We will stand up for all the people of the world.
Alors, je vais te dire, Kevin, je ne ferai pas aussi bien que toi si je chante à 24. Mais franchement, tu devrais te lancer dans la chanson. Non. Et s'il met dans le bleu, il a vraiment t'as un ton, hein, Kevin. Non, mais
moi, William, il veut chanter avec toi.
Ah, peut-être, on va réfléchir. Non, mais par contre, je pensais à notre chanson. C'est Tom Hanks dans Philadelphia. C'est ce que je réfléchissais. Et un chanteur qui a fait une chanson de ce film-là. Et c'était contre le sida. Vraiment une très belle musique aussi. On peut en parler aussi. Mais en tout cas, Kevin, lance-toi dans la musique. C'est comme des bons messages. Et je te laisse découragé par personne.
Merci. Sur ce, et je tiens à le souligner, n'oublions pas le port du préservatif. Merci à tous.
Et peut-être on va bientôt te découvrir Kevin chanteur. Hein. Franchement, ça serait une bonne chose. Tu vois, ça libère la chanson. J'en sais quelque chose. Je l'encourage, il a un don. Hein.
Bah, toi, t'as pas le don de te taire, par contre.
De quoi?
T'as pas le don de te taire.
Ça c'est trop chaud, mais te laisse pas déconcentrer en tous les cas.
Eh ben merci Kevin. On va écouter un titre en entier.
Eh bien moi je vous propose de faire un clin d'œil à notre cher Lio avec une chanson de Lio, Banana Safe.
Ça ne déplairait pas que tu m'embrasses, Anana, et plus qu'on tournera. C'est un amour de dessert.
Banana Safe.
Excuse-moi, Kevin, t'as dit Banana... Moi, je connaissais Banana Split, mais c'est une nouvelle...
Mais oui, c'est une version, justement, revisitée par Lio contre le sida.
Ah bah, tu nous apprends quelque chose. Vous la connaissez ? Kevin, je te remercie beaucoup, comme quoi ton émission d'hier est fantastique. J'apprends quelque chose. Merci d'en avoir répondu. Alors là...
On continue notre page culture avec des artistes. Wins Dollar nous propose un tour d'horizon de ces artistes mobilisés pour sensibiliser à la lutte contre le sida.
Plus de 40 ans de lutte contre le sida et les artistes restent mobilisés et soudés pour continuer d'informer, de sensibiliser, de témoigner et de soutenir cette cause. Ici, il sera question d'une exposition pluridisciplinaire à découvrir au Musée d'art moderne et contemporain de la ville de Strasbourg. Celle-ci est ouverte au public depuis le 6 octobre et prendra fin le 4 février. L'exposition se veut chronothématique et immersive. Parcours mêlant œuvres d'artistes, archives audiovisuelles de l'INA, explications de ce qu'est le HIV et des médiums d'expression très variés et riches de tout domaine. C'est à la fois un parcours historique et une plongée sensorielle au contact des œuvres, des archives, des vies touchées par le sida, de celles qui ne sont plus, de la lutte qu'il a fallu livrer face aux incompréhensions, aux discriminations et par la stigmatisation toujours existante pour les personnes touchées par le virus. Après tout ce chemin, la communication et l'échange sont primordiales pour sensibiliser les jeunes générations. De plus, durant l'exposition, des permanences sont mises en place pour les visiteurs souhaitant échanger, partager, s'informer auprès des représentants du secteur de la santé, bénévoles d'associations. Une expo citoyenne engagée et investie à voir absolument à Strasbourg. À bientôt sur Big Bang Station.
Merci Wins Dollar. Comme dirait petit Manu, la fille du vent.
Exactement. Et son véritable prénom, Céline. On espère qu'elle va bien, Céline.
Et coucou. Pas...
Quoi ? Non, ça va.
Et parce pas que... la fille au vent.
Oh, non, parce que pendant un certain temps, c'est vrai que j'avais du mal à prononcer. Je pense qu'elle a beaucoup d'humour. Mais ça va. Avec le temps, on arrive. Et en plus, on peut dire, c'est une musicienne. Elle se lance dans la musique aussi. Oh là là !
Céline, bah, tu vas faire un...
Je suis pas le seul musicien dans l'équipe.
Avec elle, tu vas chanter à faire la musique.
Ah non, parce qu'on fait pas le style, mais on voit qu'elle travaille. Elle est très étudiée. On est tout cœur avec toi, Céline. On t'envoie des bonnes ondes pour ton côté musical aussi. Oh là là, là dans l'équipe, ils ont des sacrés dos. Hein.
Allez, on continue cette page culture avec les séries. En 1993, sortait au cinéma. Vous l'avez certainement tous vu. Fille. La. Delle.
Philadelphia avec Tom Hanks. Et Tom Hanks, tout à fait. Oh là là.
J'ai vu. Ça donne envie de le revoir d'ailleurs.
Bah oui, tout à fait. Voilà.
Et la musique du film. Aussi.
Exactement. Oui, tout à fait. Une très jolie musique.
Alors, ce film dramatique dans lequel Denzel Washington interprète un avocat qui défend son client joué par Tom Hanks face à son employeur qui l'a licencié à cause de sa séropositivité. Le long métrage reçoit les éloges de la critique et deux Oscars. Son impact est mondial et place le sida au cœur de la culture populaire. Tout comme les films, les séries télé ont toujours été un bon moyen de vulgariser et de rendre visibles certains combats sociaux. Et ça a particulièrement été le cas pour l'épidémie du virus du sida. Stani nous parle de ces séries qui sensibilisent à cette maladie.
Surtout venues des États-Unis, les fictions ont permis de sensibiliser et d'informer le public sur cette maladie à travers des récits aussi émouvants que révoltants. Pourtant, les mots sida et VIH font encore peur et le sujet de la maladie reste délicat à traiter. Cependant, les lignes ont bougé ces dernières années et on peut enfin voir des représentations hors des clichés avec des personnages inspirants. Que ce soit en intégrant un personnage séropositif ou en mettant le sida au cœur de l'histoire, petite sélection des séries télé qui ont contribué, chacune à leur manière, à sensibiliser à la cause de la lutte contre le virus et à la discrimination des personnes porteuses du VIH. On commence avec la série médicale de référence, je veux bien sûr parler de Urgence de Michael Crichton, 15 saisons entre 1994 et 2009 sur le réseau NBC et en France dès 1996 sur France 2. Au sein du service des urgences constamment sous pression de l'hôpital Cobb County General de Chicago, on suit le quotidien plutôt réaliste du personnel, médecins, infirmières et autres, souvent au bord de la rupture et très touchant. Si Urgence a révolutionné le genre médical à plus d'un titre et a révélé George Clooney au passage, elle a aussi bousculé les représentations des personnes séropositives, pionnières dans de nombreux domaines. La La série l'a aussi été en mettant en scène un personnage féminin hétérosexuel afro-américain atteint du VIH en 1996. À la fin de la saison 2, le personnage de Jenny Boulet, assistante médicale, contracte la maladie transmise par son mari, contaminée suite à une relation extra-conjugale. Les boules, bref, victime mais combative, Jenny ne baisse pas les bras et continue de travailler à l'hôpital après son diagnostic, en dépit du traitement agressif qu'elle suit et surtout malgré les recommandations et autres injonctions contre elle une fois sa séropositivité révélée. Au cours de la saison 4, d'abord licenciée abusivement en raison de sa maladie, Jenny est ensuite réintégrée grâce au soutien d'un groupe de défense de gays et lesbiennes. Elle ne quittera son poste et la série qu'à la saison 6 pour se consacrer à sa famille, puisque sa maladie ne l'empêche pas de se remettre en couple et de faire une bonne action au passage en adoptant un bébé également séropositif. Un personnage féminin fort donc, et surtout l'un des premiers personnages contaminés à ne pas succomber au virus du sida dans le scénario d'une série télé. En plus d'aborder la discrimination des personnes séropositives dans le milieu professionnel, Urgence a surtout permis de sensibiliser les femmes, et plus particulièrement les femmes afro-américaines au VIH, une communauté généralement négligée par les médias jusque-là. Cette expérience a d'ailleurs amené l'interprète de Jenny Boulet, l'actrice Gloria Reuben, à s'engager dans la lutte contre le virus du sida. On enchaîne avec les frères et sœurs que ceux qui, comme moi, n'en ont pas, auraient bien aimé avoir, ceux de Brothers and Sisters de John Robin Bates. 5 saisons entre 2006 et 2011 sur le réseau ABC et en France dès 2009 sur TF1. Après la mort soudaine du patriarche, le clan Walker va connaître bien des épreuves et les secrets de famille vont mettre à mal la fratrie. Mais si les fortes personnalités des uns et des autres font souvent des étincelles, les Walker sont plus que jamais soudés pour faire front. Sur la photo de famille, Saul Alden, joué par Ron Rifkin, vu dans la série Alias, le frère de Nora, la matriarche Walker, interprétée par Sally Field, vu dans Mrs. Doubtfire et Forrest Gump, et plus généralement, l'oncle bienveillant. Au cours de la saison 4, le destin de Saul bascule quand il apprend que Jonathan, un ancien amant incarné par Richard Chamberlain, est séropositif. Il se fait alors tester et découvre qu'il a été contaminé, mais garde le résultat secret jusqu'à un accident de voiture qui l'oblige à révéler sa situation. Dans la 5e et dernière saison, Saul tombe amoureux d'un autre homme qui fuit dès qu'il apprend sa séropositivité. Il finit par retrouver Jonathan et le pardonne de l'avoir contaminé. Les deux anciens amants se marient même dans l'épisode final de la série. Brothers and Sisters aborde avec justesse la sérophobie et les peurs ou en tout cas les craintes que peut susciter le virus du sida. Mais aussi la difficulté d'accepter la maladie, de l'annoncer à ses proches, d'en vouloir à la personne à l'origine de la contamination ou encore de refaire sa vie avec une personne séronégative. On suit avec une série dont on peut difficilement se sortir une fois qu'on a commencé à la regarder, je veux parler de Murder de Peter Nowalk, 6 saisons entre 2014 et 2020 sur le réseau ABC et en France dès 2015 sur M6 puis Teva. Professeure de droit pénal et avocate renommée, Annelise Keating, interprétée par Viola Davis, permet chaque année à une poignée de ses meilleurs étudiants de travailler avec elle dans son cabinet juridique à Philadelphie, jusqu'au jour où ces derniers sont impliqués dans un meurtre. Parmi ses étudiants privilégiés, Connor Walsh, joué par Jack Falhey, tombe amoureux d'Oliver Hampton, joué par Conrad Ricamora, un geek pro de l'informatique qui l'aide régulièrement dans les affaires d'analyse. Durant la saison 2, Oliver découvre sa séropositivité. Au lieu d'ébranler le couple, cette épreuve le renforce. Oliver et Connor emménagent ensemble et, en tant que personne séronégative exposée au VIH, Connor prend le traitement antirétroviral de la PrEP pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec Oliver, malgré son statut viral, en limitant les risques. Paradoxalement, au milieu de toute la noirceur qui parcourt la série Murder, Oliver, bien que porteur du VIH, est le seul personnage positif et porteur d'espoir. Et si son couple avec Connor connaît des hauts et des bas, il reste solide. Ils finissent même par se marié au cours de la saison 5. Un duo touchant et attachant qui tient sur la durée. Leur relation apparaît même parmi les nombreux schémas progressistes mis en place par la série. Chacune dans leur registre, avec des personnages courageux et attachants et une happy end, Urgence, Brothers and Sisters et Murder sensibilisent de façon positive à la cause de la lutte contre le VIH et à la discrimination des personnes séropositives. A l'inverse, d'autres séries télé, dont le thème central est le sida, proposent une version plus sombre en abordant l'émergence de l'épidémie au sein de la communauté homosexuelle dans les années 80 et les ravages qu'elle a causés. On peut d'abord citer la mini-série adaptée de la pièce de théâtre éponyme de Tony Kushner, lauréate du prix Pulitzer en 1993, Angels in America de Mike Nichols, 6 épisodes en 2003 sur HBO. Une distribution de personnages tentaculaires et un casting de rêve, Meryl Streep, Emma Thompson, Al Pacino. Au cœur du récit de Angels in America, sous la présidence de Ronald Reagan, des réseaux d'entraide et des familles reconstituées qui sont devenues de véritables repères pour de nombreuses personnes queers, c'est-à-dire pour toutes celles et ceux dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. La série se distingue, surtout au début des années 2000, en abordant le sujet du sida sous l'angle d'un collectif injustement stigmatisé plutôt qu'à travers des histoires individuelles. Une version télé qui a convaincu le public puisque le show a enregistré les meilleures audiences de l'année 2003 sur HBO. Également salué par la critique, Angels in America décroche 5 Golden Globes et 11 Emmy Awards.
The category is... Live. Work.
Coup de projecteur sur la belle culture et le voguing, longtemps resté dans l'ombre grâce à la série Pose de Ryan Murphy, 3 saisons entre 2018 et 2021 sur FX. Les héroïnes de Pose sont en majorité des femmes trans, noires ou latinas, et ces héros des hommes noirs homosexuels qui évoluent sur la scène queer underground de New York à la fin des années 80. Tout s'irradie dans les ballrooms, lieux de performances scéniques et de compétitions artistiques diverses, une manière de compenser leur mise au banc de la société. Entre strass et paillettes, en plein boom de l'épidémie du sida, Pretel, incarné par Billy Porter, et Blanca Rodriguez, jouée par MJ Rodriguez, voient tour à tour mourir leurs amis et partenaires avant d'apprendre leur propre séropositivité. Cela n'empêche pas Pret d'être un pilier de la communauté et de s'engager activement dans le militantisme. Quant à Blanca, elle fonde sa propre maison et sert de mère adoptive pour des jeunes gays et trans qui rêvent de faire carrière dans le monde des arts. Elle crée ainsi sa propre famille dans le but de laisser un héritage après sa mort. Dans Pose, les personnages ne sont pas définis selon leur statut viral. Ils vivent, existent, exultent et aiment comme n'importe quels autres personnages de séries télé, dans cette production haute en couleurs, flamboyante et particulièrement esthétique. On termine avec la mini-série britannique, cette fois It's a Sin de Russell T. Davies, 5 épisodes en 2021 sur Channel 4 et en France sur Canal+. On suit 5 jeunes homosexuels fraîchement débarqués à Londres en 1980 et dont la vie est bouleversée par l'épidémie du VIH. En février 2021, le magazine Têtu a d'ailleurs rapporté qu'une augmentation des dépistages avait été observée lors de la diffusion de It's a Sin, un lien de cause à effet qui prouve que le traitement du sujet dans les séries télé est utile, puisque même inscrit dans un contexte passé, il a un impact sur la génération actuelle. Et vous serez d'accord avec moi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Des séries rentrées dans la pop culture et surtout dans la culture LGBTQI+, qui participent à sensibiliser cette population particulièrement à risque, et plus largement les jeunes, hommes comme femmes d'ailleurs, qui s'estiment parfois à tort peu concernés par le risque de contamination. Rappelons que peu importe notre âge, notre origine, notre sexe, notre genre ou notre orientation sexuelle, nous sommes tous, encore aujourd'hui, comme nos personnages de séries télé préférées, concernés par le virus du sida. Sur ce, je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani. On referme notre page culture avec de la BD. La bande dessinée divertit, mais permet également d'aborder diverses thématiques sous différents genres à destination d'un large public. Le sida fait partie de ces thématiques qui ne dérogent pas à la règle, avec des sujets tels que la prévention, la contamination, le traitement et la vie au quotidien avec la maladie. Eric nous démontre que le 9e art, donc là, tu as dû...
Bah justement, l'art du...
Le 9e art, c'est...
Du spectacle...
Non, le 9e art, 9e.
9e, bah c'est 9e.
Il y a quelques émissions, tu savais pas ce que c'était le 9e art. Le 7e art, c'est...
Bah justement, c'est le cinéma.
Et le 9e, c'est...
Bah peut-être la culture.
Non. Je lance qui, là?
Ah, bah, le livre Eric, justement. Le monde...
Ah bah, je suis ravi de savoir que je suis le 9e art.
Mais non, non, mais je veux dire le monde...
Eric est le 9e art.
Bah, c'est non, voilà. Le monde des bouquins, le monde des livres aussi.
Et le 8e art, c'est Chimel.
Oh, oui, bah, elle a plus d'atouts dans son sac. Hein,
ah, bah, je suis 8e art, alors.
Non, non, en tout cas, Chimel, faut que tu...
Ravi de le savoir aussi.
Non, 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 c'est bon, faut que tu... C'est une grande artiste et je suis persuadé d'une chose. T'as plein de talents cachés.
Merci beaucoup. Toi.
Faut que tu oses, Chimel, et tu vas réussir. Tu vas nous étonner.
Merci, ça me booste.
Ah bah, Eric nous démontre que le 9e art, donc la BD.
La BD, c'est ça.
C'est la BD.
Oui, c'est la ça, la BD, dessinée, c'est ouais. Ça. Voilà.
Ah, c'est pas Eric.
C'est la BD.
C'est la BD. La bande dessinée,
c'est la BD que j'avais du mal à dire. Vicky Bourg
évoque habilement le sida à travers quelques exemples dans sa chronique.
Joe est une bande dessinée référente quand on évoque le sida. Elle date de 1991, alors j'ai choisi cette bande dessinée parce que dans les années 90, c'était vraiment là où on découvrait le virus et il y avait tout un travail qui a été fait. Donc Joe, c'est l'adolescence à l'époque du sida. On y suit donc cette adolescente qui vit une histoire d'amour avec son copain musicien Laurent. Mais voilà, le virus du sida fait parler de lui et devient source d'inquiétude. La contamination est évoquée, notamment quand on apprend que le frère de Laurent est atteint du virus, l'ayant contracté par une soigne contaminée. C'est le moment où son entourage se lance dans le dépistage. Laurent n'est pas touché, mais Joe est positif au virus, l'ayant contracté à la suite d'une relation non protégée avec un partenaire atteint du sida. C'est le début du calvaire pour Joe. Laurent l'aime et ne la lâchera pas, même si cela n'empêchera pas la mort de Joe succombant à la maladie. Commandité par la Fondation pour la vie, une fondation suisse, l'auteur d'Erib, donc connu pour avoir travaillé sur Yakari, je sais pas si vous voyez le petit personnage. Donc Yakari, c'est les aventures d'un petit indien d'Amérique.
Oui, je me rappelle, il y avait même un dessin animé.
C'est ça,
oui,
voilà.
Oui, effectivement.
C'est passé dans le Club Dorothée quand
j'étais
pas né.
Exactement, bah moi aussi. Oh là, c'est vieux. Oh là là. Moi aussi, ça va.
Donc il a écrit justement cette bande dessinée et dessiné donc ce récit de qualité sous les conseils de professionnels médicaux spécialistes du sujet. La fondation avait pour objectif dans sa lutte contre le sida de faire de la prévention en formant et en informant les jeunes. Même si la bande dessinée date des années 90, le cas évoqué dans Joe renvoie à notre époque, hélas. Car à titre d'exemple, selon l'agence Santé publique France, les personnes âgées de moins de 25 ans représenteraient 13% des découvertes de séropositivité. C'est un pourcentage qu'on retrouve en 2020, donc c'est très récent. Alors, on quitte un petit peu la Suisse et les années 90 pour atterrir en 2002 en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Je vais vous parler de la bande dessinée « La BD contre le silence » des éditions Dupuis, qui aborde les jeunes et le sida. La maladie du traitement et du rapport avec la société quand on est atteint. À cette époque, des adolescents séropositifs bruxellois ont participé à un atelier de dessin et d'écriture de bande dessinée. Les psychologues les ont aidés pour écrire leurs textes nourris de réflexions sur le virus et trois dessinateurs professionnels ont illustré de la BD, le tout sous l'impulsion de Thierry Tinlot, l'ancien rédacteur en chef du magazine Spirou, le docteur Anne Linné, médecin scolaire à la ville de Bruxelles, et le professeur Jack Lévy, chef de service de pédiatrie au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Alors c'est un vrai médium de communication pour la plupart des participants et la BD avait été distribuée à des élèves de territoire. Donc c'était destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. Nous pouvons le voir comme un véritable outil de prévention, mais aussi comme un levier pour convaincre d'autres secteurs à faire la même chose. C'est aussi un guide didactique qui permet d'accéder à des informations médicaux, psychologiques et préventifs en marge des pages de la bande dessinée. On retourne en Suisse pour refermer cette chronique avec l'auteur Frédéric Peters. En 2001, il raconte son histoire d'amour avec Cathy, séropositif et mère d'un fils, lui aussi séropositif, dans un roman graphique qui rencontra un très gros succès au point de voir son adaptation en téléfilm par Arte. Tout comme la bande dessinée Joe, on découvre dans la pilule bleue l'impact du VIH sur la vie quotidienne. C'est donc guidé par l'amour et non les préjugés que Frédéric Peters va faire le choix de partager sa vie avec Cathy et son fils. Le virus de sida est bien entendu au centre de leur vie, mais rien ne change au fait que leur quotidien ressemble finalement à une autre. Et effectivement, la vie avec le sida que l'on découvre en même temps que les réflexions de Peters dans la BD, à savoir les questions que l'on se pose quand on a des rapports avec une personne atteinte du VIH, le traitement au quotidien, les conséquences de la maladie sur la santé. Le protagoniste n'est pas lâche, on ressent l'amour qu'il porte à Cathy et à l'enfant de celle-ci, et on découvre aussi le ressenti de la femme, la culpabilité d'avoir contaminé son propre enfant. En effet, c'est une des bandes dessinées où on soulève un peu ce sujet, où on n'en parle pas.
C'est tabou un peu, j'ai l'impression que c'est un peu les...
Alors, soit c'est tabou, soit il y a un pourcentage, mais en effet, la transmission du VIH à sa propre progéniture, quoi. Donc dans cette bande dessinée, il en est question. Donc avec ces trois ouvrages, on peut dire que la bande dessinée est à la fois un outil de prévention du sida, mais aussi un bon moyen de propager l'information pour lutter contre toute forme de discrimination face à ce virus. Sur ces belles paroles, à très vite, amis lecteurs.
Eh ben merci Eric. Et cette émission spéciale lutte contre le VIH en partenariat avec journeemondiale.fr, c'est déjà fini.
Oh, déjà, on n'a pas vu le temps passer.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, toute la liste sur bigbangstation.fr avec les podcasts depuis 2017. Je vous donne quelques radios. Vinyl Radio, Onde Bleue, RLM, AOM, Radio Saint-Dié, Precious Radio, Les Muses de Paris, Fréquence Magique, Radio Ems, Radio Grand Lyon, 86 FM Web Radio, Radio Marseillais, Radio Trad Grand Est, Guilmi Radio et bien d'autres radios. Et on se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un proverbe de Benoît XVI. Je dirais que l'on ne peut pas résoudre le problème du sida avec de l'argent, même si celui-ci est nécessaire, même si l'âme n'est pas impliquée. Si les Africains n'apportent pas leur aide en prenant leurs responsabilités, on ne peut pas en venir à bout en distribuant des préservatifs.
Salut à toutes et à tous, et la semaine prochaine, on parlera de...
Je crois que c'est la protection. Ils sont fidèles, ils n'ont pas forcément la parole, mais il faut les comprendre. La protection des animaux, mon cher Didier.
On parlera de droits des animaux.
Des droits des animaux, eh ben voilà, il y aura beaucoup de choses à dire. Hein.
Salut à toutes et à tous.
Salut. Bye. Bye. À la semaine prochaine.
Et oui. Poste.
Okay, let's stop.
Elle en a vu de toutes les douleurs. On
revenu de tant de combats et a tellement tendu son cœur. Là où d'autres ont baissé les bras, elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent dérisoires. On fait les choses parce qu'elles s'imposent sans se demander pourquoi.
Peut-être
goutte dans la mer.
C'est peut-être,
oui, peut-être goutte dans les airs.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oh, elle en a essuyé des yeux,
elle en a baissé les paupières,
oubliant même que le ciel est bleu.
Attends, c'est pas...